foi et turbulence.
Bonjour, c'est Christine Cossette au microphone. Heureuse de vous retrouver sur Radio Ville-Marie dans le cadre de l'émission Foi et Turbulence. Aujourd'hui, Foi et Turbulence est produite par le Collège universitaire dominicain. En septembre dernier, Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers en France, faisait une grande tournée au Québec. Il s'est notamment arrêté à l'Institut pastoral et au Collège universitaire dominicain de philosophie et de théologie à Ottawa. C'est là que nous l'avons rencontré pour parler de son dernier ouvrage intitulé « L'étonnement de croire » publié chez Novalis. « L'étonnement de croire », en fait, c'est le fruit d'une longue réflexion sur l'indifférence religieuse massive que Mgr Rouet constate. Et c'est précisément parce que l'Assemblée des évêques en France a repoussé ce thème-là, qui semble majeur pour notre invité, que ce dernier a eu l'idée de creuser la question. Il ne s'est pas empêché de dire que l'Église est aveugle sur ce problème et qu'il est urgent pour elle d'opérer une importante conversion. Pour Mgr Rouet, il est impératif d'inventer une autre Église qu'il appelle l'Église de la tendresse. Vous verrez comment cela se pose pour lui de remettre en question la façon de l'Église de se positionner face au monde. Et il y va avec des propositions audacieuses, je dirais, qui se rapprochent tellement de l'Évangile. C'est donc avec plaisir que je reçois pour vous Mgr Albert Rouet. Monseigneur Albert Rouet, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation à cette émission. Mon merci est d'autant plus grand que je sais que vous êtes au terme d'un long périple qui vous a amené dans plusieurs régions du Québec, je crois. Rimouski...
Sainte-Anne-des-Monts, Baie-Comeau, Montréal, Ottawa et Gatineau.
Oui, c'est ça, c'est juste. Donc avant de faire tout ce long périple, vous avez donné des cours à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Puis vous êtes venu ici à Ottawa donner une conférence au Collège universitaire dominicain de philosophie et de théologie, hein, où nous nous trouvons présentement. Vous êtes heureux de collaborer à la mission dominicaine?
Ah oui, bien entendu. J'étais venu déjà il y a 2 ans à Montréal, à l'Institut pastoral, et j'avais été très frappé à la fois par la chaleur de l'accueil, par la gentillesse et la fraternité des frères dominicains. Et puis, ils m'avaient réinvité pour cette année, seulement ce qu'ils avaient prévu, c'est allongé, vous savez, comme un accordéon.
Oui,
voilà.
C'est qu'on vous aime.
Alors, c'est Rimouski qui a pris le relais, l'Institut pastoral de Rimouski. Et puis, j'ai appris que je devais venir à Montréal, je n'ai pas très bien compris pourquoi tout de suite. Puis à Gatineau, je n'ai su pourquoi que la semaine dernière. Alors, je me suis laissé faire, puisque l'accueil est tellement agréable et fraternel, que, et si bien organisé d'ailleurs,
oui,
qu'il n'y a qu'à se laisser conduire.
Oui, oui. Donc, vous avez fait bon voyage.
Très bon.
Bon. Venons-en donc à notre sujet. Archevêque de Poitiers en France de 2002 à 2011, pour les auditeurs qui vous connaissent moins, vous êtes maintenant archevêque émérite. Depuis, vous avez pris le temps de vous attaquer à un thème majeur, l'indifférence religieuse dans notre monde actuel. Ce thème, vous le traitez abondamment dans votre dernier ouvrage intitulé « L'étonnement de croire ». Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à aborder ce sujet, Monseigneur?
Et la présence massive de l'indifférence religieuse. Alors, il faut s'expliquer. Je ne suis moi-même pas très sûr que le mot « indifférence » soit le plus exact. Il n'y en a pas d'autre. J'ai regardé des synonymes, j'ai regardé dans le dictionnaire complet de la langue française. Finalement, je me suis résolu à garder ce terme. Pourquoi ? Parce que il y a eu une première forme d'indifférence il y a déjà quelques années à ce que l'Église peut enseigner, à ce qu'elle peut dire, et les gens quittaient l'Église à cause de l'insignifiance, très souvent, ou du côté impératif de son message, de l'ennui de beaucoup de liturgies, et s'en allaient sur la pointe des pieds. Mais il est apparu, pour des raisons sociologiques, un autre type d'indifférence, qui ne touche pas d'ailleurs que la religion catholique. Ce que je constate en France, pardonnez-moi de ne parler que de ce que je connais le moins mal.
Bien évidemment, oui.
Il est apparu une société complètement émiettée, où l'individualisme a pris une tournure un peu maladive, qui n'est plus la promotion triomphante du sujet tel qu'on a pu la connaître il y a 30 ans, mais qui est le fait que notre société confisque aux gens la gestion et la responsabilité de leur histoire.
Ouais.
L'orientation scolaire se fait de plus en plus tôt. En moyenne, avant de trouver un travail, un jeune connaît 2 années de chômage. Les fermetures d'usines, même si elles sont bénéficiaires, tombent d'un seul coup. On est dans ce régime que les Grecs appelaient l'ananke, c'est-à-dire la fatalité. L'individu se retrouve seul face à la puissance de l'État, et au fond, il ne sait plus très bien ce qui lui reste comme marge de manœuvre. Donc il se protège.
Oui.
Et il se protège contre tout système qui lui paraît intervenir dans sa vie privée. Qu'il s'agisse d'ailleurs des lois financières, qui ne sont perceptibles qu'à quelques traders particulièrement mathématiciens et entraînés, ou audacieux, et c'est vrai aussi dans sa vie professionnelle et sa vie civique. Donc, pour se protéger, ils seront indifférents.
Si je vous comprends bien, il se méfie.
Il se méfie parce qu'il a l'impression que sa vie lui échappe, et par conséquent, il se protège.
Il se replie.
Il se replie, bien sûr. Et l'indifférence est la forme de protection, j'allais dire, la plus immédiate, la plus économique et en même temps la plus forte.
Ouais, la plus facile.
La plus facile, oui, parce que c'est celle qui se présente tout de suite. Les systèmes religieux, comme les systèmes politiques, entraînent aujourd'hui une indifférence de protection. Et on voit apparaître une très grande prudence par rapport à toute proposition religieuse, ou disons même toute proposition de conviction.
Oui. Et dites-moi, à quoi reconnaissez-vous un indifférent ? Est-ce qu'il est si loin du croyant ?
C'est pas à moi de le reconnaître. Les gens se disent et se manifestent indifférents. Ça ne m'intéresse pas. Je ne puis jamais poser la question. L'homme contemporain vit sans se poser les très grandes questions d'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous, qui ont été le fleuron de la réflexion et de l'apologétique il y a encore 60-70 ans. Ce temps des grandes idéologies est terminé. N'est-ce pas ? Et l'homme se présente comme ou celui qui se tient à distance, mais je vais revenir là-dessus, ou celui qui se tient à distance, ou celui qui se méfie, comme vous avez dit, et par conséquent, il a une attitude d'indifférence, il l'a dit de temps en temps, ça ne m'intéresse pas, ou je ne m'en occupe pas, ou à chacun pour soi, voilà autant de formules, et moi je constate ces formules, je constate ces attitudes, ce n'est pas moi qui décide que quelqu'un soit indifférent ou non. C'est la personne qui se présente telle. Alors, j'ai dit que je revenais sur un point
oui.
qui me paraît important. Quand quelqu'un est à peu près assuré de sa protection, quand il vit, n'est-ce pas, sous sa carapace, comme une tortue qui se déplace avec elle, cela ne l'empêche pas de fréquenter. Je constate que les pèlerinages qui avaient énormément baissé, voire disparu il y a 50 ans, renaissent. Mais on peut aller à un pèlerinage, on peut aller à une manifestation religieuse, C'est intéressant, ça peut être même joli, c'est folklorique dans tous les cas. Ça rappelle le passé, il y a de beaux habits, on chante de vieux cantiques, mais ça ne change rien. Mmh. C'est cela qu'on a peine à comprendre. On a des gens à certains pèlerinages, mais c'est du tourisme qui peut inclure une journée religieuse. C'est une curiosité, on visite un pays, pourquoi pas de s'intéresser aux traditions de ce pays, mais ça n'a pas d'influence sur le cours de la vie, une fois qu'on a quitté ces activités religieuses. Mmh. C'est ça ce que je veux dire.
Mais il reste que l'indifférent, j'imagine qu'il a autant besoin, il y a un besoin viscéral chez nous. Besoin de comprendre, besoin de se raccrocher à plus grand que soi, besoin de transcender son quotidien, tout comme le croyant, me semble-t-il.
Je vais vous raconter une histoire, parce que c'est nous croyants, qui disons qu'il a besoin. Uh-huh. Et je ne crois pas que cela se manifeste de cette façon-là. Autrement dit, le besoin métaphysique ou religieux n'est pas ressenti comme nous croyons qu'il soit ressenti. Nous projetons nos grandes questions sur eux. Alors, l'exemple, l'histoire que je vais vous raconter, dans une église du diocèse de Poitiers, une église du XIIe siècle, il y a un très beau chapiteau roman, un des plus achevés du XIIe siècle. Et alors, il représente sur une face du chapiteau, vous savez, c'est ce qui soutient un arc.
Oui.
Il représente sur une face Ève, n'est-ce pas ? Et de l'autre côté, l'Annonciation. Et il y a simplement écrit « Ave Eva ». Eva pour Ève, Ave pour Ave Maria, je vous salue Marie. Bon. Alors, j'étais dans cette église, je circulais, et arrive un ménage, papa, maman et l'enfant, de touristes. Et alors, d'un seul coup, l'enfant s'écrie « Papa, papa, regarde !» Il y a une femme dans l'arbre. Bon, curiosité. Le guide était là, le guide qui vient visiter l'église. Alors, il explique que, je cite, « Cela renvoie au mythe d'Adam et d'Ève. » Perplexité de ces trois personnes. Mythe n'est pas un mot de leur langage. Mm-hmm. Monsieur Adam et Madame Ève ne leur ont jamais été présentés. C'est-à-dire que l'explication du guide touristique complique la lecture du chapiteau. Si vous partez de cela, vous allez vous heurter pas seulement à une ignorance d'Adam et d'Ève, mais vous allez vous heurter à une absence de signification.
Oui, tout à fait.
C'est pas parce que vous avez dit Adam et Ève que vous avez expliqué. Alors, il faudrait repartir du désir, du fruit d'immortalité, etc. Mais alors, à ce moment-là, ça suppose d'avoir une très longue conversation avec ces gens. Oui. Voilà un cas très précis. Et, bon, ils ont écouté l'explication, n'ont manifestement pas compris, puisqu'ils sont partis vers le chapiteau suivant. Bon. Et ce chapiteau suivant représentait les fameux monstres de la sculpture romane, et leur a paru beaucoup plus intéressant.
Mais oui, évidemment.
Que le premier.
Mais oui, évidemment.
Donc, il n'y a pas de besoin propre.
Ah oui, je comprends. J'ai lu que l'Assemblée des évêques en France avait repoussé ce sujet-là que je crois que vous leur aviez proposé.
Oui.
Mais alors, comment vous expliquez ce rejet de l'Assemblée des évêques?
Parce que vous avez dit vous-même à l'instant, c'est le fait que quand on fait un pèlerinage, il y a du monde. Quand on fait un grand rassemblement, les gens viennent. Alors, il faudra d'abord vérifier si ce ne sont pas d'abord des chrétiens qui viennent. Et puis, parce que je pense que l'opinion publique a beaucoup de mal, l'opinion publique chrétienne, a beaucoup de mal à comprendre que l'indifférence ne se perçoit pas par une présence.
Non.
On peut visiter une église, je viens de vous en donner un exemple. On peut participer à un pèlerinage, je viens de vous en donner un exemple.
Ce n'est pas ça pour vous, l'indifférence.
Ce n'est pas pour autant qu'on pénètre cette espèce de couche d'argile qui empêche à l'eau de rentrer dans les profondeurs de la terre.
Est-ce que l'Église, par cet exemple-là, parce qu'elle a, par exemple, rejeté ce sujet qui, pour vous, est crucial, est-ce qu'à votre avis, c'est le signe qu'elle aurait un peu trop d'assurance?
On peut comparer beaucoup de sermons, beaucoup de catéchèses beaucoup de livres, d'articles et de prises de parole, officielles ou non, de l'Église, vous savez, à une entreprise de forage. Voilà, vous avez une grosse foreuse, vous avez un énorme moteur et vous mettez tout ça en marche et votre trépan, puisque ça s'appelle un trépan,
oui.
perce. Bon. Alors, si vous faites ça, vous voulez avoir vraiment raison, c'est-à-dire que vous voulez pénétrer au cœur de l'homme. C'est précisément de cette intrusion, de cette entrée forcée, dont se méfie l'indifférence.
Oui.
Et quand vous faites ça, vous prouvez aux gens qu'ils ont raison de se méfier. Oui. Puisque vous prenez le comportement que précisément ils nous reprochent de prendre et qu'ils s'attendent à nous voir prendre.
Oui.
Donc, plus on agit comme cela, plus on renforce l'indifférence.
Ah oui.
Il faut prendre la position inverse. C'est ce que vous m'attendez certainement là.
Oui.
Et je pense souvent à l'attitude de Jésus devant le centurion romain. Le centurion romain vient demander la guérison d'un autre, son serviteur, celui qu'il sert, son garçon. Et parce qu'il demande quelque chose pour un serviteur auquel il est très attaché, dit l'évangile de Luc. Parce que ça sort de lui, parce que la rencontre de Jésus monte du cœur de cet homme, non pas pour lui-même, mais pour un autre, que Jésus va pouvoir s'écrier « Je n'ai jamais rencontré une telle foi en Israël ». Comme si Jésus reconnaissait chez cet homme-là, qui est un païen, probablement un païen, une sorte de foi première, de foi viscérale, humaine, qui tire cet homme hors de lui.
Oui.
Et parce qu'il va sortir de lui, de sa carapace, de sa fermeture, pour s'intéresser à la situation et à la santé d'un autre, Jésus reconnaît dans cette sortie de soi une première manifestation de générosité. Donc, si on veut toucher les gens, il faut les laisser venir, il faut les laisser s'exprimer, il faut que ça sorte d'eux-mêmes. Le premier mot, la première attention, le premier verre d'eau, comme dit saint Matthieu.
Oui, et comment vous le voyez, vous la voyez, cette attitude de l'Église, là, parce qu'en fait, elle n'adopte pas un bon positionnement par rapport aux gens. Il faut changer de positionnement, d'après vous.
Vous avez raison. C'est-à-dire qu'avant de parler, il faut d'abord écouter. Et en particulier ceci, moi, que j'ai souvent remarqué, des gens qui sont religieusement indifférents viennent dans les préparations au baptême et au mariage. Parce que la grand-mère demande le baptême du petit-fils, parce que ça s'est toujours fait dans la famille. Nous, on n'y croit pas, mais ça se fait.
Voilà. C'est un peu du folklore, finalement.
Absolument.
Oui.
Alors.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
Si on laisse ces gens raconter leur vie, si on laisse ces gens parler, avant même d'aborder le sujet propre du baptême ou du mariage, je me souviens d'une réunion de préparation au mariage. Et j'ai posé la question aux jeunes qui étaient là, mais pourquoi vous venez? Et la réponse est extraordinaire, ils m'ont dit, parce que c'est le seul endroit où on peut parler de notre vie.
Ah.
Et voilà que d'un seul coup, leur vie, qui leur paraît souvent morne, sans éclat, vous allez en écouter le récit, vous allez prendre la longue patience, mais fructueuse patience, d'écouter ce que ces gens ont à dire. Et d'un seul coup, leur vie va prendre de l'importance.
Mmh.
D'un seul coup, en les écoutant, vous les rendez sujets de leur propre histoire.
Mmh.
Vous leur remettez entre les mains ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire la considération de leur propre existence.
Mmh.
Et en réponse, vous pourrez essayer de parler, mais en réponse seulement. Mais tant qu'ils n'ont pas parlé, en quelque sorte, ils n'ont rien à entendre.
Oui, je comprends. Mais ça demande, chez ces gens-là qui accueillent, une grande qualité d'écoute. Il faut être très compétent, non?
C'est d'abord une question de compétence, c'est une question d'attitude. Vous avez parlé tout à l'heure de positionnement,
oui,
et
oui.
Je crois que c'est très juste. Parce que, regardez bien, que vous vendiez une théorie, un livre ou une savonnette... La publicité fait ça très bien.
Oui.
Bon, et on vous déverse dans l'oreille, dans les yeux, à longueur de journée, des affiches, des émissions, des programmes, des spots, pour vous convaincre d'acheter tel livre, telle savonnelle, tel dentifrice, ou telle voiture. Bon. Or, la foi ne peut naître que de l'incarnation. Mmh. Et l'incarnation, c'est le contraire du superficiel. Donc ça suppose, si vous voulez parler de la foi, de prendre le même chemin que le Christ.
C'est-à-dire
de rentrer dans le cœur de la vie de ces gens.
Donc de les écouter.
De les écouter, de les accueillir, de les recevoir, de partager un repas avec eux.
De s'y intéresser.
C'est ça, par l'humanisation de ce dialogue qu'une parole de foi pourra être évoquée.
Oui, mais en fait, comme on fait avec nos amis, finalement.
Eh bien, c'est une très belle approche, parce que j'aime beaucoup d'un des derniers livres, peut-être le dernier livre de la Bible, la définition de Dieu, Dieu ami des hommes.
Ah, oui.
C'est beau.
Oui, c'est très beau, c'est très beau. Tout à l'heure, vous donniez l'exemple dans l'évangile du centurion, là.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que l'Église... Comme elle agit, comme elle se positionne présentement, s'éloigne de l'Évangile en adoptant parfois, et j'ose le dire, une attitude un peu trop dogmatique.
Ah, là, je voudrais, si vous permettez, de distinguer deux choses, n'est-ce pas?
Oui.
Nous vivions jusqu'à ces dernières décennies dans un monde uniformément religieux, ou, si l'on préfère, dans un monde où le sacré avait une existence reconnue par tout le monde et assurée par tout le monde. Donc, que l'Église parle religion, ça allait de soi. Qu'il y ait des commandements et des personnages sacrés, ça allait de soi. Donc, à ce titre-là, la parole était peut-être pas attendue, mais n'était pas surprenante. Alors voilà que maintenant nous sommes dans un autre monde, où le sacré a quitté la sphère religieuse pour se positionner sur la bourse, sur les vacances. Les vacances, c'est sacré.
Oui.
Mais c'est très vieux en France. L'hymne national français chante « Amour sacré de la patrie
oui. ».«
Conduit, soutien, mon bras vengeur, liberté, liberté chérie ». Bon, voilà, allons-y. Mais c'est l'amour sacré de la patrie. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Bon. Et par conséquent, le support, plus ou moins conscient, qui permettait à l'institution Église, mais à d'autres institutions, d'être assis, la parole qui allait un peu de soi, hein, tout ça maintenant apparaît complètement étranger.
Ah oui.
Alors, la remarque que je voulais faire par rapport à votre question, c'est la première, c'est le fait que nous ne sommes plus dans une position où une parole systématique, soit attendue et même écoutée. Donc il faut que l'Église réapprenne à parler autrement.
Oui.
Et elle ne peut réapprendre à parler autrement que si elle est dans une autre relation avec les gens qui l'entourent.
Oui, et vous avez appelé ça, si je me souviens bien, dans votre livre, être lisible.
Voilà.
Ah oui, c'est une très belle expression.
Visible.
Pas visible, mais lisible. Lisible. Oui.
Bon, parce que la visibilité peut s'imposer, c'est une position, personne n'en veut. Mais la lisibilité, c'est comprendre pourquoi l'autre est là. Et là, la seconde remarque que je voudrais faire, dans l'Église, le dogme, c'est-à-dire finalement une expression de la foi, est toujours dit négativement.
Ah bon?
Vous
avez un exemple de ça?
Ah ben, tout à fait.
Oui.
Il n'est pas dit... Si quelqu'un croit que Jésus, si quelqu'un ne croit pas que
Jésus est ressuscité,
et par conséquent, vous avez bien une limite négative.
Oui.
Mais ça vous laisse une marge extraordinaire de savoir ce que vous entendez par homme et ce que vous entendez par Dieu. C'est pas. Et on a oublié ça, c'est-à-dire que en positivant le dogme, on a fait une idéologie.
Ah oui.
On en fait l'imposition d'une définition, quasiment de la chimie. Or, l'Église a toujours défini négativement. Et ça, pour moi, c'est fondamentalement indispensable, parce que ça correspond à la liberté de l'homme. Et en ce sens aussi, c'est étrangement moderne.
Oui.
Il ne s'agit pas de dire « fais ceci, fais cela », on tombe dans des impositions insupportables. Mais si on commence par dire, vous savez... Si tu ne dis pas que ton humanité et la relation à l'autre est en danger. Ça, je crois que c'est une parole qu'on peut arriver à dire. Bon, c'est peut-être un peu abstrait, la manière
dont je reviens à ma question. Telle qu'elle se positionne aujourd'hui, l'Église, est-ce qu'elle vous apparaît un peu loin de l'Évangile?
Je ne sais pas répondre à cette question. Je vais vous dire pourquoi.
Je vous embête.
Non, pas du tout. pas du tout. Mon impression et ma réflexion, c'est de dire que l'Église d'il y a 50 ans était en meilleur accord avec le monde qui l'entourait, et par conséquent, elle était plus proche de ce monde qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église ne se retrouve en accord culturel, car au fond, c'est ça, qu'avec une petite minorité.
Ah oui.
Mais la majorité des gens est en décalage, donc l'Église est en décalage par rapport à eux,
parce
que ça vaut dans les deux sens, n'est-ce pas, est en décalage par rapport à l'évolution des mentalités, et en particulier par rapport à l'indifférence religieuse, elle est en décalage par rapport à la blessure profonde que ce monde très dur impose aux hommes.
D'après vous, quelle qualité donc devrait développer l'Église pour, et là je reprends la très belle expression de Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam en 64, pour converser avec le monde?
Mais d'abord, il faut parler la même langue.
Oui, donc on revient à la lisibilité.
Il faut parler la même langue, il faut laisser l'autre nous apprendre sa langue.
Oui.
J'ai repéré dans le Québec quelques expressions de vieux français que nous on n'utilise plus et que vous m'avez re-appris.
Ah oui?
Ah ben bien sûr, je l'oublie là pour le dire maintenant, mais vous avez des tournures de phrases que nous français d'aujourd'hui, les cousins de l'autre côté de l'océan, n'est-ce pas, n'utilisent pas. Et ben c'est très très intéressant. J'ai redécouvert des formules françaises, des accents français que nous on n'a plus. Bon, et ben je veux dire que c'est toujours l'autre qui m'apprend son langage. Et en ce sens-là, l'Église doit se laisser éduquer par le langage, par les mentalités, par les tournures, par les perceptions, par la façon de faire, de l'autre, de celui à qui elle s'adresse. Donc, l'attitude que j'attendrais de l'Église, c'est qu'elle puisse se mettre en vraie position de dialogue.
À hauteur d'homme.
À hauteur de visage.
De visage humain, c'est ça. Et vous disiez dans votre livre, renoncer à avoir toujours le dernier mot.
Oui.
Ouais.
Oui, d'abord, sur Dieu, qui peut prétendre avoir le dernier mot?
Mais voilà.
N'est-ce pas? Je trouve que le but de dialogue, c'est de retrouver ensemble des points de suspension.
Oui, ouais, ensemble.
Pour que ça aille plus loin.
Oui, oui. Vous dites, et je vous cite toujours dans votre livre « L'étonnement de croire », « Ce n'est pas avec des arguments que l'on touchera les cœurs et que l'on percevra l'indifférence, mais par l'attention à chacun et en lui rendant la maîtrise de son histoire.
Oui. »
Et pour cela, vous proposez d'inventer une église de la tendresse. Alors, dites-moi en quelques mots, qu'est-ce que vous entendez par Église de la tendresse?
Ben, écoutez,
c'est très
simple.
Beau, hein?
C'est très, très simple. C'est une Église qui aime les gens. C'est une Église qui, avant de juger, comprenne, écoute. C'est une Église de la miséricorde. J'aime beaucoup le mot miséricorde parce que l'étymologie est un peu controversée, mais peu importe. C'est une Église qui a un cœur de pauvre. Et c'est une Église de la compassion qui souffre avec quelqu'un. Vous comprenez, on est là, elle est présente, et avant de parler, elle prend son temps. C'est une Église aimante.
Donc elle va devoir cesser de condamner.
Dans l'Évangile de Jean, c'est celui qui refuse de croire, et il ne veut pas croire, à condition de trouver qu'il s'agit bien de la foi et pas de ce qu'on pense être la foi, il se condamne lui-même.
Ouais.
N'est-ce pas? Autrement dit, la position de l'évangile de Jean, au chapitre 3 et puis au chapitre 16, c'est la position de refus, de fermeture, de dureté de cœur, d'oreille bouchée, qui est la condamnation que l'homme se construit lui-même. N'est-ce pas? À condition de ne pas l'acculer à ce faire cette forteresse. Mais condamner un autre, c'est toujours d'une manière ou d'une autre ne pas comprendre.
Oui, oui. Il faudra à ce moment-là changer peut-être notre vision de Dieu, notre façon de le voir. Alors, quel est-il pour vous, ce Dieu?
Vous êtes drôle, parce que précisément, c'est la question à laquelle il ne faut pas répondre.
Parce que vous rentrez sans ça dans la chimie théologique, c'est-à-dire que vous avez des définitions, vous manipulez vos petits trucs.
Écoutez, un des gros problèmes d'aujourd'hui, c'est que Dieu, on prétend le connaître, et on va décerner comme une décoration militaire à titre posthume à Monsieur de Nazareth, Jésus fils de Joseph, la médaille commémorative de Dieu. Nous sommes donc à ce moment-là les maîtres de Dieu,
oui,
puisque nous attribuons ou non ce titre à Jésus. Alors ce n'est pas, c'est ce que nous faisons,
oui,
croyants et non-croyants. Mais ce n'est pas comme ça que l'Évangile fonctionne.
C'est comment ?
En quelque sorte, relisez Saint Jean. Le Christ dit « Dieu, vous ne le connaissez pas ». Et vous utilisez un mot à votre convenance. D'ailleurs, Saint Justin, au IIe siècle, dit « Dieu est un mot que nous utilisons pour dire ce que nous ne comprenons pas ». Et c'est déjà dans Saint Jean. Et vous appliquez ce mot, vous le composez, vous l'inventez à partir de vos besoins, de vos peurs, de vos calamités, de vos détresses, de vos désirs. Vous le composez à partir de vous. Et voilà que Saint Jean nous apprend que Jésus va nous dire quel est le visage de Dieu. Il est le chemin. Et que nous ne savons pas ce que nous disons en utilisant le mot Dieu si on ne passe pas par le chemin de Jésus, c'est-à-dire le chemin d'une générosité allant jusqu'au don total de sa vie.
Mmh.
Et que Dieu, c'est l'illimité de la générosité, l'illimité du don. Et ça, aucun mot ne peut l'enclore.
Oui. Est-ce que vous pensez que des gens dans la vingtaine, dans la trentaine, voire dans la quarantaine, pourraient être touchés par ce visage de Dieu ou cette façon de voir?
C'est intéressant, votre question me rappelle la finale d'un sermon de saint Augustin qu'on prend pas toujours pour un homme plein d'humour, mais enfin bon. Et il parle de la Trinité. À un moment, il dit « votre charité », parce qu'il disait « votre charité » à son peuple. « Votre charité », je trouve que c'est difficile à comprendre, etc. Et il s'exclame à ce moment-là « mais donnez-moi quelqu'un qui aime et il comprendra. »
Ah, voilà.
« Donnez-moi quelqu'un qui découvre ce que c'est qu'aimer et il verra ce que je veux dire.
Oui. »
Et tout est exprimé par ce cri d'Augustin. Parce que Même si c'est pas dans les formes convenues par la société, la morale et tout ça, quelqu'un qui aime fait l'expérience du don de soi, quand c'est vraiment l'amour et pas un sentiment passager, fait l'expérience d'un don de soi qui le dépasse, d'un don de soi. Vous savez, je crois qu'on aime 10 secondes de temps en temps, parce qu'on se rend compte à ce moment-là que si vraiment on aimait, c'est toute la vie qui serait prise.
Ah oui.
Et là, on touche quelque chose qui a rapport à Dieu. Eh bien, je travaille encore depuis des années et des années avec un groupe de réflexion, l'arbre à palabre, parce qu'on palabre beaucoup, précisément,
oui.
Comme en Afrique. Je peux dire qu'ils m'ont encore plus et mieux fait découvrir cette vérité.
Thank you.
Nous reprenons cette entrevue avec Mgr Albert Rouet. Dans votre dernier livre, Mgr Rouet, vous parlez largement de l'indifférence des gens de notre société actuelle. C'est ce que vous venez de nous dire dans cette première partie d'émission. On a vraiment l'impression que vous lancez un cri d'alarme à l'Église en lui disant l'urgence d'une conversion importante. C'est juste ça.
Votre question me gêne. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que un cri, ça fait prophète. Vous savez, les prophètes, ouais, c'est après leur mort qu'on voit s'ils ont été prophétiques. J'ai plus conscience qu'un cri, ça va, ça vient, ça passe. Hein, c'est une seconde.
C'est émotif?
Souvent.
Ah, c'est ça.
J'ai plus conscience qu'on est devant des problèmes de fonctionnement. On est devant des problèmes de relations internes. Et que l'Église s'est habituée à un type de fonctionnement centralisateur. On dit que c'est vrai de la curie, mais c'est vrai d'une paroisse.
Oui.
Bon, de sacralisation du pouvoir, sur lequel on ne s'interroge absolument jamais. Donc, c'est ce type de fonctionnement. Comment vous dire ? J'ai employé une grosse formule, mais ça, les Français adorent ça. C'est l'impensé du fonctionnement.
Oh là là !
Ah, ça fait bien.
Ça fait bien. Alors, expliquez-nous un peu.
L'impensé, on fonctionne. Mais on ne réfléchit jamais à la manière dont on fonctionne. Ah oui. On a toujours fait comme ça. Il est évident que, après tout, c'est moi qui commande. Voilà, enfin, on a des tas de formules qui sont de l'impensé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réfléchi à ça. On ne s'est jamais dit, mais après tout, ça pourrait peut-être fonctionner autrement.
Oui.
Eh bien, pour reprendre ces gros mots, dont je demande pardon aux auditrices, aux auditeurs, c'est précisément cet impensé qu'il nous faut penser. C'est-à-dire réfléchir, est-ce que notre manière de faire correspond vraiment à ce que l'Évangile demande ? Est-ce que le pouvoir est un vrai service ? Et de qui ? Est-ce que le petit a sa place parmi nous ? Est-ce que nous sommes organisés pour que les dons de chacun soient vraiment au bénéfice de tous ? C'est-à-dire, il y a un certain nombre de phrases dans le Nouveau Testament qui sont des critiques par rapport à cette impensé. Mais comme on a toujours fait comme ça, ben on continue.
Voilà. En fait, le problème, ce n'est pas tellement le pouvoir comme le fait que parfois on oublie que le pouvoir doit être au service de l'autre.
Ah.
Parce que l'Église ne peut pas fonctionner sans une organisation parfois qui semble un peu paralysante.
Ah, merci, vous illustrez admirablement par votre question ce que je combats. Alors, allez-y.
Oh, ben allez-y, combattons.
Mais c'est très vrai. Augustin, déjà cité là précédemment, disait que Dieu aime l'ordre. Ah, bon. Mais de quel ordre s'agit-il ? D'un ordre monarchique ? D'un ordre aristocratique ? Ou de l'ordre, mais dans un autre sens, c'est-à-dire les relations.
Mais voilà, c'est ce que...
Quand on met de l'ordre dans une pièce, on met de l'ordre selon une certaine logique. Quelle est la logique de notre ordre ? Est-ce que c'est l'ordre de aimez-vous les uns les autres ? Est-ce que c'est l'ordre que le plus petit soit le premier ? Est-ce que c'est l'ordre du pouvoir dictatorial ou l'ordre de la fraternité ? Enfin, je veux dire, on peut se poser des tas de questions.
Oui, mais quand j'entends au service des autres, c'est un ordre, je dirais, qui touche, qui est tout près de l'Évangile, non ?
Alors, pour
préciser... moi, je veux bien une Église désordonnée, hein ? Moi, je veux bien.
Ah non, non, non.
Mais
non.
Je ne sais pas si je serais idéaliste en proposant une Église un peu désordonnée. Et...
Si on entend par désordre le fratras, l'empilement de n'importe quoi.
Non.
Ça, il est sûr qu'il n'y a pas de vie.
Non, le désordre dans le sens de créativité, qui fait naître la créativité.
Oui,
parce que trop d'ordre coupe la créativité.
Vous avez raison, mais là encore, il faut critiquer l'impensé. On y est en plein dedans.
Oui, c'est ça. Là.
Vous avez dit un ordre au service des pauvres. Très bien, mais au service d'eux, ça veut dire quoi ? Parce que je connais des tas d'associations et des tas de personnes qui se disent au service des autres et qui, en fait, commandent.
C'est vrai, ça.
Eh ben, le serviteur prend le pouvoir, c'est bien connu. Dans une, comment vous dites-vous, une corporation ?
Oui.
C'est pas le président qui commande, c'est le secrétaire général, c'est bien connu, partout, partout. Bon, c'est une espèce de règle générale, le serviteur prend le pouvoir.
Oui.
Or, l'Évangile, là-dessus, va nous rappeler une chose évidente, que c'est la réciprocité qui compte.
Ah, c'est beau, ça.
Donc, le problème, c'est pas de savoir ce que je donne, c'est aussi de savoir ce que je reçois. Je rappelle que Dieu est Trinité, soit dit en passant.
Et donc ?
Donc, entre les personnes trinitaires, il y a un échange, ils donnent, ils reçoivent.
Oui.
Et que si on donne sans recevoir, n'est-ce pas ? Donc il y a constamment donner, recevoir, rendre, disait l'abbé Pierre en France. Mm-hmm. Il y a un aller-retour. Mm. L'ordre de l'Église est l'aller-retour.
Oui. Et donc là, ce que vous proposez, si je vous comprends bien, c'est de repenser toute la structure, si ce n'est pas à travers un cri, c'est à travers une réflexion profonde, importante, sur le fonctionnement de l'Église. Est-ce que vous pensez que le mérite du pape François est de justement de tranquillement changer le positionnement de l'Église?
Ah!
Est-ce que vous pensez qu'il va changer des choses?
Ma réponse va peut-être vous surprendre.
Je ne suis plus surprise de rien, là.
Ah, ben écoutez, si je... alors, disons, on va surprendre les auditeurs, peut-être un auditeur, on ne sait jamais. Le pape François a 6 mois de moins que moi. Mm-hmm. Bon, donc, il est, je peux le dire, comme moi, à un âge où, inévitablement, on se dit, je n'ai pas le temps d'accomplir, ni même d'entreprendre de grandes réformes. Parce que faut du temps, faut changer les gens en place, faut modifier le fonctionnement, et cela, ça prend, à vue humaine, une quinzaine, une vingtaine d'années.
Oui.
Je le lui souhaite. Mmh. Enfin, voyez l'âge qu'il aura. Bon. Mais il y a une chose qu'il peut faire, et qui, à mon avis, il a probablement commencé à faire, c'est de nous faire rêver.
Ah oui.
C'est-à-dire montrer qu'on peut penser autrement, montrer qu'on peut vivre autrement, montrer qu'on peut agir autrement, et en nous faisant rêver qu'autre chose, une autre attitude, une autre posture est possible, il crée les conditions d'un vrai changement de fond, parce qu'il fait bouger dans nos têtes les images que nous avons du pouvoir, du fonctionnement et de l'Église institution. Et le plus important qu'il puisse faire, c'est vraiment de nous faire rêver. Au sens d'un désir, au sens très fort du rêve. Non pas l'irrationnel, mais l'autre. On peut faire autrement.
Mmh. En fait, vous nous aidez à comprendre pourquoi il nous attire, ce pape-là.
Oui.
Hein, il est attirant et on l'aime déjà.
Oui.
Hein? C'est
oui,
beau, il nous fait rêver à autre chose.
C'est sa puissance de rêve. Mm-hmm. Bien sûr, il va falloir qu'il gouverne. Bien sûr, il aura les hauts et les bas de tout gouvernement. C'est pas très drôle de gouverner, mais il faut le faire. Mais il mettra cette touche de rêve qui est indispensable pour avancer.
Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait arriver à faire conversation avec les indifférents, comme vous en parliez en début d'émission? Est-ce qu'il y arrivera?
Précisément, écoutez, je vais vous dire une chose toute simple. Vous savez, vous rappelez le premier mot du pape François? Il apparaît donc à la loggia de Saint-Pierre, il y a 200 000 personnes là-bas, son premier mot c'est « bonsoir ».
Ah oui.
Et là, tout est dit. Tout est dit parce que c'est vraiment à hauteur des gens, même s'il est surplombé, plus en maître. Mais bonsoir. Et avant de les bénir, il a demandé qu'on prie pour lui.
Oui.
Voilà un pape qui s'est mis à la hauteur des gens. Donc les gens pouvaient sortir sans craindre ce qu'ils avaient dans le cœur.
Oui.
Ils ne se trouvaient pas devant une fonction, le représentant d'une fonction, ils se trouvaient devant un homme qui venait de recevoir un ministère, mais qui restait un homme, leur frère.
Oui.
Et ça, c'est fabuleux.
Hier, peut-être, ou avant-hier, dans sa dernière déclaration sur le célibat des prêtres, Monseigneur Pietro Parolin, ce serait le nouveau numéro 2 du Vatican.
Secrétaire d'État.
Alors, on dit qu'il a jugé que les changements au Vatican promus par le pape François pouvaient être obtenus avec un esprit démocratique. Alors, cette déclaration sur le célibat des prêtres, n'est-ce pas un bon exemple d'un repositionnement de l'Église?
J'accorde plus d'importance à la fin de votre question. Je vais vous dire pourquoi.
Oui.
Ordonner prêtre des gens mariés, ça se fait encore dans les églises catholiques d'Orient.
Oui.
Bon, ça s'est fait pendant des siècles. Hein? Alors, c'est une longue histoire qu'on n'a pas le temps de retracer, mais qui contient en elle-même un piège. Imaginez par exemple que un plein bateau de prêt débarque à Ottawa où nous sommes. Il y a des bateaux qui arrivent jusque là, sinon on les met sur des péniches. Voilà.
Oui.
Bon, je vous fiche mon billet, je vous parie que dans la semaine qui suit, on retournera 50 ans en arrière. C'est-à-dire que tous les agents pastoraux, les agents de pastoral, tout ça, rentreront à domicile, les prêtres feront tout. Donc, ça peut être, ces prêtres étant tous mariés, bien entendu, ça peut être un faux progrès, parce que ça ne sera intéressant que quand on aura réfléchi à qu'est-ce qu'on attend d'un prêtre.
Oui. Et...
sans ça, le nombre de prêtres va reconstituer ce qu'on a connu il y a 60 ans, quand il y en avait beaucoup.
Oui.
Donc, avant de savoir qui on ordonne, il serait intéressant de savoir pourquoi on les ordonne.
Oui.
Et à mon sens, dans la phrase que vous citez de Monseigneur Parola, le plus important, c'est dans un esprit démocratique.
Oui, parce que l'Église n'est pas une institution démocratique. C'est triste, hein?
Oh, ma pauvre, on pourrait là-dessus... D'abord, il y a plusieurs formes de démocratie.
Mm-hmm.
Hein? Entre la démocratie bicamérale, les deux chambres, avec des partis multiples comme en France, n'est-ce pas, et la palabre africaine, il y a de la démocratie en Afrique. Palabrer, c'est une forme démocratique du gouvernement.
Uh-huh.
On l'a oublié.
Oui.
Donc, sommes-nous le seul modèle de démocratie? Ça serait intéressant de se poser. Mais le fait qu'on puisse en débattre, que la parole soit libre, qu'on ne soit pas obligé de faire partout pareil.
Mm-hmm.
Bon, ça serait déjà une avancée considérable.
Oui.
Et qui permettrait de repositionner le problème du sacerdoce, des prêtres, dans un autre climat.
Oui, j'entends.
Et qui éviterait de revenir en arrière, c'est-à-dire de reconstituer des paroisses centralisées avec M. le curé qui a tout pouvoir et autour du curé.
Je termine, Mgr Rouet, en vous posant une question peut-être un peu plus personnelle. Un évêque de votre trempe a dû, j'imagine bien, traverser des tempêtes. Vous y parvenez sereinement?
Je ne sais pas. Il y a parfois des tempêtes justes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout accepter. Il y a de l'intolérable dans la vie.
Tout à fait juste.
Bon. Il y a des tempêtes stupides.
Oui.
J'ai horreur des calomnies et des médisances, et Dieu sait que j'ai été victime pendant des mois et tout.
C'est vrai.
Mais d'un autre côté, je me dis... Je vais vous dire une chose, hein, toute simple, je n'ai pas demandé d'être évêque, ça m'est arrivé comme ça, je n'ai pas demandé d'être archevêque, ça m'est arrivé comme ça, j'étais même contre au début, puis j'étais forcé d'accepter. Bon, le cœur de la vie d'un homme n'est pas là.
Il est où?
Ah ben, je vais vous le dire. Quand je vais mourir, que je paraîtrai là-haut, je ne pense pas que le bon Dieu me demande combien de messes pontificales j'ai célébrées. Il me demandera « Qui as-tu aidé à vivre ?» Et ça, à travers les brouillards, les tempêtes, ces grands moments où il n'y a rien, c'est ce qui m'a aidé à avancer. Voilà.
C'est très touchant.
Je ne sais pas, mais c'est ça.
Oui, ben écoutez, un tout grand merci, Mgr Rouet, de nous offrir un éclairage vivifiant, je dirais, hein, sur des questions, somme toute, assez préoccupantes. Merci.
Et, merci à vous.
Oui, nous espérons déjà une autre visite de vous ici.
Attendez, ici à celle-là.
Oui, ici à Ottawa ou à Montréal, chez les Dominicains. Merci, Mgr Rouet. un dernier mot pour vous dire que Mgr Albert Houet a publié « L'étonnement de croire » chez Novalis. Je vous rappelle que cette émission « Foi et turbulence » est produite par le Centre culturel chrétien de Montréal, le Centre étudiant Benoît Lacroix et le Collège universitaire dominicain avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Notre prochain rendez-vous sera le mercredi 22 janvier prochain. J'aurai alors le plaisir de recevoir un professeur éthicien et théologien du Collège universitaire dominicain d'Ottawa, Didier Canepil. Je veux remercier chaleureusement mon invité, Mgr Albert Houet de Poitiers en France. Merci à Justine Chevary-Cossette à la technique. C'est Christine Cossette qui vous espère le 22 janvier. Je vous laisse sur un Alléluia de Handel. Joyeux Noël à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Ville-Marie. Soyez heureux. Au revoir.